dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Alors on va commencer par un petit temps de méditation, comme d'habitude. Comme d'habitude, on prend un moment pour détendre le corps au maximum. Dans les épaules, dans les bras, dans les muscles du visage. On prend conscience de notre corps et si on sent des zones de tension, on laisse les muscles se relâcher, si possible. Hein, s'il y a des zones de tension qu'on n'arrive pas à détendre, c'est pas grave. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas un problème. On fait au mieux. Puis on peut utiliser cette instruction de Rinpoche. Rinpoche il utilise souvent l'expression Allow your mind to relax. Ça veut dire autorise ton esprit à se détendre. On autorise l'esprit à être à l'aise. On autorise l'esprit à ne pas courir après quelque chose. On autorise l'esprit à ne pas refuser quelque chose, bloquer quelque chose. On autorise l'esprit à décrocher de nos préoccupations incessantes. Autorise l'esprit à ne pas chercher à résoudre tout ce qui se présente pendant ce temps de méditation. On autorise les choses à être ce qu'elles sont, parfois non résolues. On décroche de nos préoccupations par rapport au passé, par rapport au futur. On autorise l'esprit à être en vacances, de préoccupations. À souffler. À se mettre au repos. On s'autorise à ne pas avoir de contraintes, à ne pas chercher à ce que l'esprit soit comme ci ou comme ça, Si l'esprit est tranquille, c'est très bien. Si l'esprit est agité, c'est très bien. Si l'esprit est joyeux, c'est ok. Si l'esprit est plutôt endormi, plutôt terne, c'est ok. Alors, on s'autorise à être ce qui est, ce qui doit être. On laisse les phénomènes venir, partir. S'accorde ce moment où on peut se détendre par rapport à tout ça, sans se mettre de pression, sans chercher à obtenir quelque chose, sans chercher à faire le vide, sans chercher à être particulièrement calme, sans même chercher à être particulièrement bien. On décide d'être à l'aise. On décide d'être détendu. Alors, je ne sais plus trop où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois. Je ne sais pas si on avait parlé de la première strophe qui parle du renoncement. Je ne sais plus trop. On en avait déjà parlé du renoncement?
D'accord.
Ouais. Donc, on va aborder ce soir la troisième strophe sur la dévotion. Donc il est dit dans le texte, la dévotion est la tête de la méditation. Ainsi enseigne-t-on. Au lama qui lui ouvre la porte du trésor d'instruction orale, le méditant adresse continuellement sa prière. Accordez-moi votre grâce, qu'une dévotion sincère naisse en moi. Donc je rappelle, hein, la prière à la lignée, c'est un texte donc qui est très important dans la lignée Kagyu. C'est un texte qui est très court, et comme tous les textes très courts, ils sont souvent très profonds. Et parfois, ils nécessitent des commentaires, parce que quand on lit comme ça, et qu'on n'a pas de commentaires, il peut y avoir... ça peut prêter à confusion. Et donc, ça parle de la dévotion. La dévotion est la tête de la méditation. On avait vu le renoncement, c'est les jambes de la méditation, c'est la base. C'est la base de la méditation, c'est la base du dharma, pas de renoncement. On ne peut pas comprendre pleinement le dharma, on ne peut pas avancer. C'est vrai que c'est les jambes en tant que base, mais c'est les jambes aussi qui nous permettent d'avancer sur le chemin. Pas de renoncement, on ne peut pas comprendre, on peut pas aller plus loin dans le dharma, parce qu'on est trop préoccupé de trouver le bonheur à l'extérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire on court après quelque chose en pensant que c'est ça le bonheur et puis on se met à l'abri de quelque chose en pensant que ça surtout pas. Et tant qu'il y a ce rapport vis-à-vis des phénomènes ou peut-être un phénomène en particulier, bah quelque part on est pas, notre énergie elle n'est pas totalement dirigée vers la libération. Parce que on pense encore, voilà, on va dépenser beaucoup d'énergie en pensant qu'on aura gain de cause en poursuivant un phénomène ou en se mettant à l'abri d'un phénomène, mais on n'est pas quelque part, on n'est pas on mise pas sur le bon cheval. On se raconte des histoires. C'est ça le renoncement, hein. Et puis on avait bien insisté la dernière fois, il s'agit pas de renoncer au monde. On renonce pas au monde, on renonce pas au phénomène. D'ailleurs, on pourrait pas. Il y en a qui ont essayé, hein, on peut vendre la voiture, vendre la maison, partir au bout du monde, partir sur une île déserte, et ben, tant qu'on est dans le samsara, on trouvera toujours quelque chose à redire, quoi. Même sur une île déserte, et ben, il fera trop chaud, il y aura trop de vent, il y aura trop de ceci, trop de cela, puis au bout d'un moment, et ben, on se dit, bah, c'était mieux avant. On peut partir dans une grotte, c'est pareil. On est en contact avec le monde, on est en contact avec les phénomènes, que ce soit les phénomènes du monde, que ce soit les phénomènes de l'esprit. Mais quand on dit renoncer au monde, c'est renoncer aux histoires qu'on se raconte par rapport aux phénomènes, en pensant qu'il y a des phénomènes, cela, il nous les faut absolument. Si on les a pas, on est malheureux. Quand on les a, on a peur de les perdre, etc. Et puis il y a des phénomènes, surtout pas, tant qu'on a ça, et ben, on ne peut pas être heureux, ça fait obstacle à notre bonheur, etc. Donc le samsara, on est sans arrêt en train de courir. On court sans arrêt, on ne trouve jamais la paix, on trouve parfois des satisfactions, mais elles sont toujours temporaires. Et même quand les circonstances arrivent enfin, voilà, le truc qu'on voulait, ça arrive, et ben on le sait. Dans notre expérience, on a vu que c'est bien, mais c'est toujours pas ça. Il manque toujours, voilà, il manque toujours. On peut pas vraiment se poser, on peut pas vraiment être totalement en paix parce qu'on se rend compte que, et ben, il y a d'autres problèmes qui arrivent. On le voit. Hein, alors je pense qu'on a, la dernière fois, j'étais vraiment, j'étais revenu là-dessus. Il faut être clair par rapport à ça. On continue d'améliorer les choses parce que sur le chemin, on a besoin de réunir des circonstances favorables. Et ces circonstances favorables, elles sont différentes selon chacun. On va chercher à trouver l'environnement qui nous est le plus favorable pour notre pratique. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Et puis, bah, certains, voilà, on améliore les situations, on travaille, on essaye de rassembler pour nous ce qui nous semble le mieux, mais pour parfois constater qu'il n'y a pas de garantie. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas de travail, et puis on se dit, bah, quand je trouverai un travail, ce sera mieux. Et c'est très bien de se dire ça, et c'est très bien de faire des démarches. Mais en tant que pratiquant du Dharma, on va voir que même si on obtient le travail, bah, peut-être que ça résoudra pas nos problèmes, peut-être que ce sera mieux, peut-être pas, on n'a pas aussi la garantie que ça sera mieux, peut-être que ça sera pire. Mais quand même, en faisant cette démarche, il n'y a pas de problème à faire cette démarche. Le problème, c'est de s'illusionner en pensant que quand j'aurai ça, j'en aurai définitivement terminé avec les problèmes. Quand j'aurai ça, alors ça peut être, là je parle d'avoir un travail ou de ne pas avoir de travail, ou de changer de travail, ou peut-être de rencontrer quelqu'un, ou de changer de partenaire, ou de voilà, ou d'obtenir une situation sociale, ou d'obtenir de la richesse. On verra que, quelles que soient les conditions, qu'on les ait ou qu'on les ait pas, au bout du compte, même quand on obtient les choses qu'on voulait, c'est très bien, mais on se rend compte que ça ne suffit pas. Les phénomènes sont insatisfaisants. C'est ça qu'enseigne le Bouddha. Tous les phénomènes sont insatisfaisants. Les phénomènes du monde, mais pas seulement les phénomènes du monde, tous les phénomènes, même les états d'esprit, ils sont insatisfaisants. On pourrait se dire, ok, maintenant, je vais apprendre à me contenter de ce que j'ai, à pas trop, voilà, à vivre de manière, comme on pourrait dire, modérée, voilà, avoir un mode de vie modéré, etc. Mais là non plus, c'est pas forcément la solution. On pourrait essayer, par exemple, voilà, je l'avais dit, je me répète peut-être un peu, mais la dernière fois, j'avais dit, ben, on pourrait imaginer que dans un centre bouddhiste, on va trouver plus, voilà, on va rencontrer. On va vivre avec des gens qui travaillent sur eux-mêmes, qui sont sympas avec nous, où on va pouvoir méditer dans un environnement calme, etc. Mais on va se rendre compte que on emmène notre esprit avec nous. Donc si on avait des problèmes avant, on va retrouver les mêmes problèmes, quel que soit l'endroit où on va, même dans les centres bouddhistes. Parfois c'est pire. Je blague pas, hein, je parle en connaissance de cause. C'est-à-dire, si on pense que j'en ai marre de ces gens-là parce qu'ils se comportent mal, parce que ce qu'ils disent, c'est pas bien, etc. Et puis qu'on a des conflits avec des gens, qu'on peut aller à l'autre bout de la planète, ces conflits-là, on va les retrouver avec les personnes avec qui on vit. Parce que c'est notre esprit aussi qui joue. Alors on peut se dire, je vais manger sainement, diététique, bio, mais là encore. Ça peut marcher à un moment donné, on peut réunir toutes les conditions, la petite bulle qui fait que l'esprit est moins agité, l'esprit est calme, je mange bien, je mange bio, pas trop lourd. Et en même temps, il suffit d'un petit caillou dans la chaussure pour que tout ça s'effondre. Et c'est bien que ça s'effondre. À un moment donné, c'est très important qu'on voit que même ça, même le fait par exemple de miser sur le fait d'avoir un esprit pas trop agité, pas trop de sollicitations, pas trop de préoccupations, c'est pas la libération, c'est conditionné. Il faut toujours maintenir un truc pour qu'il y ait ça dans l'esprit. Et même si on maintient un truc, à bout d'un moment, ça a ses limites. Et on va comprendre que, là encore, le Bouddha, ce qu'il enseigne, c'est valable. On peut pas miser sur un état d'esprit pour nous apporter la paix. Parce qu'on peut s'imaginer que la paix, c'est avoir un esprit tranquille, avoir un esprit joyeux, sans qu'on, voilà, pas une vie compliquée, etc. Mais c'est encore conditionné tout ça. Et quand ça s'effondre, on peut au moins se dire, on a encore misé sur le mauvais cheval. C'est-à-dire, on pense, c'était déguisé. Ce qui est sournois, c'est que on pense que sous prétexte que c'est déguisé en dharma, on pratique le dharma. Mais c'est pas encore le dharma. On est encore en train de chercher. On peut encore se leurrer. C'est bien de chercher le bien-être. Hein. Je dis pas, hein. C'est bien de chercher à réunir les bonnes conditions. Mais il faut comprendre que le dharma, c'est pas ça. Le dharma, c'est. Il y a les conditions pour pratiquer le dharma, mais la pratique du dharma nous emmène à nous libérer de. Plutôt à pratiquer quelles que soient les circonstances. Si on peut manger diététique, c'est bien. Mais parfois, on peut pas. Et c'est ok. Si l'esprit est calme, c'est bien. Et parfois, si l'esprit est agité, là aussi c'est ok. Si l'esprit est joyeux, très bien. Si l'esprit est irrité, c'est ok aussi. Parce que les phénomènes, ils sont ce qu'ils sont. Il n'y en a pas un qui soit
C'est ça que nous enseigne le Bouddha. Ils sont tous du même acabit. Ils sont ni bien ni mauvais. Les phénomènes, ils sont ce qu'ils sont. Il y a des causes et des circonstances qui font qu'il y a le calme dans l'esprit. Il y a des causes et des circonstances qui font qu'il y a de l'irritation dans l'esprit. Et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment je gère ça. Et quand vraiment on comprend ça, quand vraiment on comprend qu'il n'y a pas tellement un phénomène à rechercher plus qu'un autre, eh ben on va commencer à travailler avec tous les phénomènes, à comprendre que, bon, il y a des phénomènes qu'on préfère, pas de souci, il y a des phénomènes qu'on aime moins bien, mais on va comprendre que le dharma, si on veut vraiment pratiquer le dharma, on n'a pas à se poser trop de questions. C'est tous les phénomènes sont bons pour l'éveil. S'il y a irritation, je pratique avec l'irritation. S'il y a le calme de l'esprit, je travaille avec le calme de l'esprit. Mais on n'est jamais coupé du dharma profondément. Parce qu'on ne se raconte plus d'histoire par rapport au phénomène. On fait d'ailleurs moins le... De moins en moins, on fait la distinction entre... Là, il y a le monde sacré, le dharma. Telle condition, c'est le dharma. Et puis telle condition, c'est pas le dharma. Moi, j'ai fait cette expérience-là à Noël. Pendant 3 semaines, j'étais en dehors du monastère. Et puis, quelque part, j'ai été voir des amis, j'ai été voir ma famille. Et je me suis rendu compte que dans ce contexte, qu'on pourrait entre guillemets appeler mondain, parce que voilà, il y a parfois cette distinction qui se fait, il y a le monde sacré et puis il y a le monde mondain, comme si au monastère on était hors du monde et puis en famille on était dans le monde, ou dans le contexte professionnel c'est le monde, mais au bout du compte moi, l'expérience que j'ai fait, c'est que confronté à des problèmes qui sont autres que ceux du monastère, confronté à des problématiques ou à des situations que je ne vis pas forcément au monastère, je me suis rendu compte que je pratiquais 100 fois plus le dharma dans ce contexte-là qu'au monastère. Parce que peut-être le fait d'être hors de ma zone de confort ou hors du train-train du monastère avec lequel je suis à l'aise, parce que ça fait des années que je vis là, etc. Je me suis rendu compte que là, il a fallu que je cherche des ressources, que j'aille puiser en moi... d'autres enseignements pour faire face à des situations dont je n'avais pas l'habitude. Je m'en sens grandi. J'ai vraiment l'impression d'avoir pratiqué le dharma 100 fois plus que peut-être dans mon train-train quotidien. Voilà, c'est juste pour vous partager un exemple où parfois le fait de se dire il serait temps que, voilà, là je suis dans le monde, il serait temps que je pratique le dharma, parfois on se surprend à dire ça. Il serait temps que je pratique le dharma. Ou j'entends des personnes qui disent « il serait temps que je pratique le dharma ». Et souvent, quand j'entends ça, j'entends quelque chose comme « il serait temps que je passe un peu plus de temps sur le coussin ». Ça nous arrive de se dire ça. Et parfois, c'est vrai. Si on pouvait s'aménager plus de temps sur le coussin, c'est bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le dharma, c'est pas s'asseoir sur le coussin. S'asseoir sur le coussin, c'est réunir les bonnes conditions. Mais le dharma, en fait, il est tout le temps là. Et il est tout le temps là, même quand on pense que ce qui nous arrive, c'est pas plaisant, on en a marre, on est un peu submergé, on est un peu dépassé par tout ça. Mais c'est là que le dharma, il s'applique. On n'est pas coupé du dharma à ce moment-là. On est... Parfois, l'instruction qu'il nous faudrait, on met du temps à la trouver. Parce que je pense qu'on les a reçues, les instructions, on a écouté pas mal d'enseignements, on a étudié depuis plusieurs années. Donc les instructions, on les a. Et parfois, on n'est pas forcément. Parfois, l'instruction ne sort pas tout de suite. L'instruction qui nous permet de voir que là où on se sent, on voit pas le bout du tunnel. En fait, il suffit d'une instruction pour changer la donne. Un petit truc qui va nous inspirer, et puis on voit le truc autrement. Et hop, ça se libère. Et là, on est dans le dharma. On est vraiment... on applique et on ne se sent pas du tout coupé du dharma. On voit juste la situation comme une opportunité, une façon de trouver l'inspiration... Enfin, voilà, de traverser le problème tout en restant la tête hors de l'eau, pas submergée. Et confiant. Parfois, l'instruction, elle met du temps à venir. Mais déjà, de se dire que c'est pas la situation ne nous coupe pas du dharma, même s'il nous paraît très inconfortable, très irritante, très mondaine, entre guillemets, on n'est pas coupé du dharma à ce moment-là. Et je pense que le renoncement, ça, voilà, pour parler du renoncement, ça rejoint bien cette idée. Le côté, il y a des phénomènes dharmiques, des phénomènes pas dharmiques, ça c'est pas le dharma. Tous les phénomènes, les phénomènes ne nous illusionnent pas. C'est nous qui nous illusionnons par rapport aux phénomènes. Et le fait d'arrêter de se raconter des histoires par rapport aux phénomènes, ça c'est le dharma. On regarde les choses telles qu'elles sont. Et ça n'empêche pas qu'il y a des phénomènes plaisants, et puis des phénomènes déplaisants. Pas de problème. Mais aucun ne nous empêche profondément de pratiquer le dharma, bien que on n'est pas forcément des grands réalisés. Il y a des êtres qui sont capables d'intégrer tous les phénomènes au dharma. Ils ont un tel niveau de réalisation que ils sont capables d'intégrer la maladie. Ils sont capables d'intégrer des situations que nous, aujourd'hui, en chemin, bien sûr, voilà, faut être honnête avec nous-mêmes. On n'est pas capable de travailler avec tout ça et de rester, comment dire, libre de tout ce qui nous arrive. Je pense à des phénomènes comme la violence, la torture, le viol, la maladie, la mort. Le dharma nous invite à... nous dit que si on pratique correctement le dharma, avec détermination, avec confiance, eh bien, peut-être, et même sûrement, hein, si on pratique le dharma, comme tous les êtres éveillés avant nous, bah, ils sont passés par là, et certains aujourd'hui, et dans le passé, ont pu traverser des situations qui nous, aujourd'hui, nous paraissent inimaginables, tout en restant en paix, tout en restant libre, tout en restant l'esprit confiant. Voilà, je nuance. Il y a ce qu'on voit dans la vie des maîtres et qui va nous inspirer en nous disant « oui, c'est possible, il y a des êtres qui ont vécu des situations que nous, aujourd'hui, on trouve totalement atroces et on est suffisamment honnête avec nous-mêmes pour se dire « aujourd'hui, j'en suis pas là, mon entraînement du dharma me permet pas de ne pas me laisser... totalement submergé par ce qui arrive. » Mais n'empêche que on peut faire confiance par rapport aux instructions qu'on reçoit et qui marchent. Et en se disant, plus ça va, plus on comprend mieux le dharma, plus on comprend mieux le dharma, plus on comprend le dharma, plus on peut avoir confiance dans ces instructions et ça nous permet d'aller plus loin. De voir que sur notre chemin, il y a des choses qui avant nous semblaient inenvisageables et aujourd'hui, on arrive très bien à faire face à ces situations-là et de manière plus paisible, plus libre. Et ça nous emmène à la dévotion. La dévotion est la tête de la méditation, ainsi enseigne-t-on. Autant le renoncement, c'est les jambes, autant la dévotion, c'est la tête. Et c'est important, la tête, parce que c'est ce qui est derrière tout ce qu'on fait et ce qu'on dit. Ça passe par la tête. Ça passe par l'intention. Ça passe par... Voilà, ça conditionne tout ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et là, on dit la dévotion, c'est la tête de la méditation. La dévotion, c'est fondamental. Et en même temps, c'est très dur à commenter. Surtout en Occident. Il paraît que c'est une des choses qui est le plus difficile à commenter en Occident, ce qu'est la dévotion. Et pourtant, c'est vraiment super important. Et on dit que c'est difficile parce qu'on dit que les Occidentaux... Enfin, parfois, il y a des gens qui disent que les Occidentaux, ils sont très dans la tête, très cérébral, très, et beaucoup moins dans l'émotionnel. Et je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'il faut nuancer. Il y a des personnes qui sont beaucoup dans l'intellect, beaucoup dans le raisonnement, beaucoup dans le cérébral, et qui sont moins dans l'intuition, dans l'émotionnel, etc. Mais on trouve totalement l'inverse. En Occident, pas de problème. Des gens qui sont totalement dans l'émotionnel et pas du tout dans la... Enfin, et beaucoup moins dans la tête. Mais la dévotion, c'est l'union des deux. Pour qu'il y ait dévotion, il faut qu'il y ait le cœur et la tête. Il ne peut pas y avoir la dévotion sans les deux. Si, par exemple, on est seulement dans l'intuition, seulement dans l'émotionnel, ça va pécher à un moment. Pourquoi? Parce que on ne peut pas vraiment faire confiance dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Si on ne comprend pas vraiment le dharma, si on ne comprend pas de quoi il s'agit, bon, à un moment donné, toute notre confiance, elle va être limitée. On va faire confiance, mais ce sera une confiance aveugle parce qu'on comprend. Voilà. On ne peut pas vraiment avoir une confiance totale dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Et inversement, si on n'est que dans le raisonnement, dans l'intellect, et qu'on ne laisse pas de place à l'intuition, les gens qui sont trop dans le cérébral, le problème, c'est qu'on ne peut pas, à un moment donné, on ne peut pas. Il n'y a rien en quoi on puisse vraiment faire confiance. Parce que le raisonnement vient saboter, systématiquement vient saboter la confiance. On remet systématiquement tout en question. Donc il y a sans arrêt des doutes. Parce qu'on ne laisse pas assez de place à l'intuition. Donc il n'y aura pas de place pour la dévotion. La dévotion, donc, c'est l'union de la tête et du cœur, de la compréhension et de l'intuition. Mais ce qui importe, le plus important d'abord, c'est la compréhension. Dans le dharma, c'est la chose la plus importante à acquérir en premier, la compréhension. C'est pour ça qu'on va mettre beaucoup de l'accent sur l'étude. L'étude, c'est comment dire, incontournable. Quel qu'on soit moine, qu'on soit laïque, on doit recevoir des enseignements, on doit étudier des textes, parce que dans le cursus, on dit il y a écoute, réflexion, méditation. C'est vraiment c'est les trois sagesses. Écoute, réflexion, méditation. L'écoute, c'est ben voilà, on reçoit les enseignements, on est réceptif. Ensuite, il y a la réflexion, c'est-à-dire on va mettre à l'épreuve ce qu'on a entendu, on va le confronter à notre expérience, à la vie de tous les jours, etc., pour valider, pour dire est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. Si on valide, du coup, ça devient une compréhension. Ok, c'est juste, donc je peux avoir confiance. Donc ensuite, on va passer à la méditation, qui est, on va s'efforcer d'en avoir une expérience directe. On a compris, ça va passer donc de la tête au cœur, avoir une expérience directe. Mais il faut bien voir que dans les trois pôles, le premier écoute et réflexion, c'est l'étude. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, très essentiel. Et ça renvoie aussi à l'instruction qu'on trouve dans les sutras. Le Bouddha disait, n'acceptez pas ce que je vous dis parce que vous me respectez. Acceptez ce que je vous dis parce que vous l'avez examiné profondément, de la même façon qu'on testerait la pureté de l'or en le frottant, en le coupant, en le brûlant. C'est ça l'image qu'il a donnée. Et c'était pas pour dire attention, il y a des trucs que je dis, c'est vrai. Attention, il y a des pièges, il y a des trucs que je dis, c'est faux, donc vérifiez bien. Non, non. Il dit ça, c'est simplement pour nous faire comprendre que si on veut vraiment avoir confiance en ce qu'il dit, on ne peut pas faire l'impasse sur le fait de le vérifier par nous-mêmes. Si on n'en a pas une expérience directe, ça sera toujours... Voilà, il l'a dit, mais on ne peut pas faire totalement confiance si on n'en a pas fait l'expérience directe. Et il y a un enseignement très célèbre aussi par rapport à ça. C'est le dernier enseignement que Milarepa a donné à son disciple Gampopa avant de se quitter. Voilà, il voit Gampopa pour la dernière fois, il lui dit, voilà, c'est la dernière fois qu'on se rencontre, je t'ai tout donné, t'as tout reçu. Donc maintenant, tu vas les pratiquer, les instructions. Et le jour où tu me verras comme le parfait Bouddha, il sera temps pour toi d'enseigner. Gampopav donc va mettre en pratique les enseignements de Milarepa et un jour, il obtient l'éveil, il réalise l'éveil. Et c'est à ce moment-là qu'il voit Milarepa comme étant le parfait Bouddha et il se met à enseigner. Mais qu'est-ce que ça nous dit cette histoire? C'est que même quelqu'un comme Gampopa, qui avait une confiance très grande en Milarepa, bah finalement, il a eu la confiance absolue, le 100% confiance, qu'au moment où il fait l'expérience de l'éveil. C'est-à-dire, il voit les choses telles qu'elles sont. Et à ce moment-là, il comprend que Milarepa est le Bouddha, parce que toutes les instructions qu'il a reçues se valident au moment de l'expérience. Mais ça veut dire qu'avant, il était peut-être à 97%, 99%, mais il n'avait pas la confiance totale, parce qu'il n'avait pas fait l'expérience directe. C'est ça que ça nous dit, que nous, la dévotion, oui, pour faire naître la dévotion, il faut avoir la confiance. Et pour avoir la confiance, il faut avoir la compréhension. S'il n'y a pas de compréhension, ben, il ne peut pas y avoir vraiment de confiance, parce qu'on ne comprend pas profondément les choses. Voilà, ça c'est important à rappeler. Parce que parfois, quand on entend dévotion, il y a cette idée, voilà, dévotion, c'est une sorte de confiance où on s'en remet. Mais on ne parle pas de dévotion aveugle, là. On parle au contraire d'une confiance qui se base sur la compréhension. Et pour avoir la compréhension, il faut pratiquer. Si on ne pratique pas le dharma, on ne peut pas faire naître la compréhension. Il y a l'écoute, il y a la réflexion, et ensuite il y a la méditation. C'est on met en pratique, on a une expérience directe, du coup compréhension, du coup confiance, du coup dévotion. Donc pas de... Pas de pratique. Si on ne met pas en pratique le dharma, on ne peut pas comprendre le dharma. On ne peut pas faire l'expérience du dharma. Et pas de dharma, pas de chocolat. Alors évidemment, donc quand on parle de la dévotion, donc c'est quelque chose qu'on vise comme étant, voilà, l'état dévotionnel, c'est quelque chose auquel on aspire. Parce que quand on est dans cet état d'esprit qu'on appelle la dévotion, ça se base sur une grande confiance dans les enseignements. On se dit, bah voilà, jusqu'à maintenant, j'ai pratiqué, ça s'est avéré juste, et puis ça permet d'aller plus loin, et puis plus ça va, plus on a confiance dans les enseignements. Plus on a confiance en les enseignements, plus il y a de la dévotion. Et plus notre esprit va être ouvert à voir le dharma partout, dans les situations plaisantes, dans les situations déplaisantes, dans les situations qu'on aime, dans les situations qu'on n'aime pas, mais au fond, on se sent capable de y reconnaître le dharma. Parfois, on va voir le maître dans la vie de tous les jours. Dans le bouddhisme tibétain, on va parler le lama racine. Si on a le lama racine, pas au sens forcément nécessairement le maître extérieur, le bonhomme. Le lama racine, en tant que maître extérieur, au bout d'un moment, quand on le comprend plus profondément, on comprend que c'est le fait de voir le dharma à travers les situations tous les jours. Si on voit le dharma à travers les situations tous les jours, bah, cette situation devient le lama racine. C'est-à-dire quelque chose qui nous ramène à la nature de notre esprit. Et donc ça va faire naître la dévotion. On est ouvert à tout ce qui se passe en se disant, ben finalement, tout est propice à l'éveil. Tout est là pour me faire avancer sur le chemin, pour me libérer. Les situations plaisantes, les situations déplaisantes aussi, deviennent des opportunités. Quand on devient solide dans la pratique, stable dans la pratique, eh bien, on va considérer aussi, on va apprendre à considérer les situations défavorables comme étant des opportunités. Peut-être même les meilleures opportunités pour nous éveiller. L'état de dévotion est la tête de la méditation. L'état de dévotion, c'est le top du top pour faire l'expérience du Mahamudra. Donc dans la lignée Kagyu, l'éveil, on parle de Mahamudra au sens l'expérience de l'éveil, c'est synonyme, Mahamudra, éveil, le fait de voir les choses telles qu'elles sont, rien de tel que la dévotion pour faire naître cette expérience-là. On considère que c'est le top. On considère que si on est dans un état de dévotion, on nous dit vous pouvez laisser tomber toutes les autres pratiques. C'est le top. Toutes les pratiques qu'on peut faire, etc. S'il y a cet état de dévotion, de confiance absolue, d'ouverture, il n'y a rien de tel. Ensuite, il est dit au lama qui lui ouvre la porte du trésor d'instruction orale, le méditant adresse continuellement sa prière. Alors, ce qu'il faut comprendre là, c'est que. Donc, on dit, quand on parle de dévotion, on parle. Ce qui est le plus important, c'est la dévotion envers les enseignements, le dharma. Cette confiance qu'on va développer envers les enseignements. Mais quand on dit enseignement, bah finalement, les enseignements, il faut les recevoir d'un enseignant. Et c'est très difficile de rencontrer aujourd'hui des enseignants vraiment qualifiés. Des enseignants qui vraiment ont réalisé l'enseignement du Bouddha, donc qui n'ont plus de défauts, qui sont éveillés, qui sont capables de guider parfaitement leurs étudiants. Voilà, aujourd'hui c'est très difficile à trouver, donc quelque part on va essayer de trouver des maîtres qui réunissent, on va dire, au moins un minimum de qualités qui sont nécessaires pour, voilà, pour nous faire avancer sur le chemin. Mais la dévotion, elle va naître quand. Voilà, comme on voit dans l'exemple de Milarepa avec Gampopa, elle va naître quand on va pouvoir valider les instructions. Si on valide les instructions, si de par notre expérience, on comprend que tout ce qui nous a été enseigné, ça s'avère vrai, ça s'avère juste, naturellement, on va avoir de la gratitude envers ceux qui nous ont guidés de manière fiable. Voilà. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour Gampopa avec Milarepa, c'est qu'il a vu que à aucun moment donné, Milarepa ne s'est pas montré parfaitement fiable. Toutes les instructions qu'il a données, parfaitement fiables. Donc du coup, c'est la gratitude absolue. On comprend que là, je parle vraiment, par exemple, d'une relation avec un véritable maître, parce que pour les instructions du Mahamudra, bien sûr, nous, on a besoin de recevoir le Dharma, et puis on peut le recevoir de pratiquants du Dharma, on peut le recevoir des moines, on peut le recevoir des lamas. C'est déjà pas mal de recevoir ces instructions-là du Dharma. Mais après, les instructions, les introductions à la nature de l'esprit. Pour pouvoir recevoir ce genre de compréhension, ce genre d'instruction très profonde, ben, il faut qu'en face de nous, la personne, au moment où nous donne les instructions, elle soit dans cette expérience-là. C'est pas seulement des mots, elle va nous transmettre une expérience. On parle d'introduction à la nature de l'esprit. Où là, effectivement, il y a des mots, mais les maîtres qui transmettent ce genre d'expérience, il y a un contexte particulier. Certains sont capables de sentir que c'est le bon moment, que peut-être les étudiants à ce moment-là sont réceptifs. Donc il y a un climat qui fait qu'il y a autre chose qui va passer que des mots, compréhension par l'intellect. Il y a aussi une expérience et ça peut faire naître, voilà, une instru ça peut faire naître une compréhension profonde. Et si ça se passe, si ça se produit chez nous, il va y avoir de la gratitude par rapport à ça parce qu'on sent que sans cette personne qui nous transmet cette expérience, on peut pas, on n'aurait pas pu y goûter. Donc ça va aussi faire naître, voilà, beaucoup de confiance, beaucoup de dévotion. C'est de ça qu'il s'agit. Au lama qui ouvre la porte du trésor d'instruction orale, le méditant adresse continuellement sa prière. On voit par exemple que Milarepa, c'était un exemple qui est souvent cité. Quand on parle de la dévotion, c'est souvent Milarepa qui est un peu le représentant, enfin pas le représentant, mais il est souvent cité parce que sa vie, elle exprime particulièrement la dévotion. Parce qu'il avait une dévotion sans borne pour Marpa. Faut savoir que, bon, bah voilà, on sait, hein, Milarepa, il a tué 35 personnes. Dans les textes, c'est ça qu'il est dit. Il a étudié la magie noire et puis il l'a utilisé pour tuer 35 personnes. Même certains disent, parce que ça c'est dans les textes, mais certains disent qu'avant de tuer 35 personnes avec la magie noire, il en avait tué d'autres avant. Bon, déjà, tuer une personne, pour un être humain, tuer une personne, c'est énorme. Quel fardeau que tu d'avoir sur les mains le voilà la vie d'une personne. Mais tuer 35 personnes, Milarepa, lui, il croyait au karma. Mais il pétait de trouille. Il pétait de trouille. Parce qu'il s'est dit, mais si je meurs avec ça sur la conscience, c'est foutu. C'est foutu pour moi. Donc il pétait de trouille à l'idée de mourir comme ça. Et donc il était, voilà, il a cherché un moyen, par tous les moyens, quelqu'un qui serait capable de faire en sorte qu'il purifie ce karma-là. Et il va rencontrer Marpa, et il va avoir une confiance absolue dans Marpa, et puis bah, Marpa, il va pas le louper, hein, voilà, au niveau des instructions qu'il va donner à Milarepa. Mais Milarepa, il appliquait tout ce que disait Marpa à la lettre. Même au détriment de son bien-être, de sa santé, voilà. Tout ce que disait Marpa, il le faisait. Et souvent, on pense que... Enfin, on rapporte seulement ça de Milarepa, c'est-à-dire toutes les épreuves que Marpa lui a fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que entre les instructions et les relations qu'il avait avec Marpa, il passait son temps à prier. C'est-à-dire, c'était pas seulement dans les épreuves, c'est tout le temps, jour et nuit, il était dans un état de dévotion envers Marpa. Il priait Marpa, donc il était vraiment dans un état d'ouverture par rapport à ce qui se passait. Tout ce qui se manifestait était l'activité de Marpa, vu comme le maître, vu comme le Bouddha, vu comme celui qui peut lui apporter... qui détient les clés de sa purification, de la libération, etc. Accordez-moi votre grâce qu'une dévotion sincère naisse en moi. Dévotion, c'est-à-dire cette confiance, cette compréhension. Pourquoi on prie ? Parce que si on prie, c'est que quelque part on reconnaît que ça ne va pas être facile. Donc on demande de l'aide. Et c'est bien de reconnaître ça. Ça montre que, bah oui, on sait que le dharma, ça ne va pas se faire tout seul. Pratiquer le dharma, c'est pas évident, c'est pas aisé, c'est pas tout le temps aisé, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, et faire naître la dévotion, cette compréhension, cette confiance, cet état d'ouverture, ça aussi, si on sait que c'est pas aisé, bah, on va être enclin à demander de l'aide, à prier. À la fois, le fait de prier, voilà, ça nous fait reconnaître que ça va pas se faire tout seul. Et c'est... Voilà, c'est propice à la pratique. C'est propice au fait de se conditionner à maintenir notre pratique tout le temps, à maintenir voilà, le fait de... Voilà. Là, c'est le lama, mais le lama, voilà. Puis-je ? Ça peut être notre nature de Bouddha. C'est pas seulement le lama extérieur, c'est le lama intérieur. Puis-je comprendre les instructions du dharma, puis-je les mettre en pratique, puis-je développer de la confiance envers les enseignements, puis-je développer de la dévotion envers les enseignements, envers les instructions que j'ai reçues de part et d'autre. Enfin, c'est ça la dévotion. Alors, il y a aussi une instruction que je voulais vous dire, que j'ai bien aimée, que j'ai trouvé dans un enseignement du Karmapa qui parlait justement de la prière à la lignée, où il disait, en parlant de Gampopa et d'un autre maître qui s'appelle Gotsangpa, donc il rapporte que, une histoire que j'avais jamais entendue, Gampopa un jour il a dit à ses disciples, il les a réunis, et il leur a dit, voilà, j'ai déjà subi d'innombrables épreuves avant pour réaliser l'éveil, j'ai subi d'innombrables épreuves, je les ai pas, grosso modo, hein, parce que je me souviens pas de la phrase exacte, mais... Le sens, c'est j'ai déjà subi d'innombrables épreuves, donc ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à les subir. Les ayant subis, ce sera facile pour vous. Et ce que ça veut dire, c'est que les bodhisattvas, dans leur chemin, ils ne subissent pas seulement ces épreuves pour réaliser l'éveil pour eux-mêmes, ils les subissent aussi pour qu'on n'ait pas à les réaliser. Moi, ça m'a parlé, cette instruction-là. Cette idée qu'on est soutenu, on n'est pas tout seul sur le chemin. Il y a un autre maître qui s'appelle Gotsangpa qui voilà, a raconté à ses disciples quelque chose de similaire en disant « J'ai accompli toutes les tâches ardues, pour vous mes disciples ce sera facile. » Si on a confiance en ça, ça peut vachement nous aider. Si on a confiance en nos maîtres, si on a confiance à ces êtres éveillés, que ce soit du passé, etc., ça peut beaucoup nous aider dans notre cheminement en se disant, pas de problème, même si on accomplit des trucs, enfin voilà, on traverse des trucs durs, le gros du boulot, il est fait. On nous a, quelque part, on a réuni pour nous les conditions favorables. C'est comme si on nous avait préparé un bon repas, voilà, avec le couvert, les assiettes, le repas, il n'y a plus qu'à manger. Le gros truc, ça a été accompli par les maîtres du passé. Voilà, dans le bouddhisme tibétain, dans le Vajrayana, cette dimension, elle est très présente. Elle est très présente, on n'est pas tout seul sur le chemin. Les Bouddhas, il suffit de les invoquer, ils sont là. Il suffit de se mettre au soleil pour être réchauffé. Ils sont tout le temps là. Parfois, quelque part, on a le sentiment d'en être séparé, mais c'est juste une vue de l'esprit. Il suffit de se mettre au soleil. Il suffit de les invoquer, il suffit de solliciter leur aide pour qu'elle arrive. Voilà, je trouve que c'est un enseignement qui peut donner aussi beaucoup de ressources, de force, si on est enclin à faire confiance à ça. Le mot tibétain pour dévotion, ça, c'est megu, qui est la contraction de mepa et gupa, megu. Mepa, ça veut dire inspiration, et gupa, ça veut dire respect. Et j'aime bien cette en revenir au mot tibétain. On est inspiré, et du coup on a du respect. Inspiré par l'attitude d'un maître, inspiré par les enseignements, du coup on a du respect. Et oui, plus on va cheminer, plus on va avoir une compréhension de plus en plus profonde du dharma, plus la dévotion, on lui laisse, ça va naître dans notre esprit. La dévotion envers les enseignements, envers les enseignants, et voilà, bien sûr, hein, trouver des enseignants parfaits, c'est très rare, mais quelque part, nous, ce qui nous importe, c'est de trouver des enseignants qui soient... relativement qualifié, avec, on va dire, déjà des bonnes qualités solides, même si, voilà, notre enseignant peut avoir beaucoup de défauts. Mais ce qui nous intéresse, c'est le positif. Vous voyez, nous, dans le Dharma, on va nous inviter à... Le Dalai Lama, il dit ça, il dit... quand vous trouvez un enseignant qui vous semble fiable, bah concentrez-vous plutôt sur ce que vous avez envie de prendre, c'est-à-dire les qualités, plutôt que sur le négatif. Le négatif, bon bah ça le regarde, mais nous ça nous intéresse pas, donc on va pas prendre les négatifs, et ça nous permet quelque part d'être plus enclin à la dévotion que si on porte uniquement notre attention sur ce qui va pas. Chez notre lama, chez notre maître, etc., il y a peu de chances que la dévotion naisse. Et puis de toute façon, on trouvera toujours des défauts. même si on avait en nous un parfait Bouddha, ça c'est dit, hein. Le Bouddha, il avait plein d'étudiants autour de lui qui lui trouvaient des défauts et il se faisait des ennemis. Si on cherche la petite bête, on va la trouver de toute façon, même si on a en face de nous le parfait Bouddha. Donc voilà, on nous invite, si on veut faire naître la dévotion, laisser la place à la dévotion, portons-nous sur ce qu'on voit de positif, plutôt que seulement insister sur ce qui ne va pas. Voilà. C'est pas mal de ne pas vivre. D'un côté, c'est excellent qu'on puisse avoir la chance de côtoyer nos maîtres, de côtoyer des êtres qui ont une grande réalisation, que ce soit voilà, des gens comme Rinpoche, Dalai Lama, le Karmapa, recevoir des enseignements d'eux. Mais c'est aussi pas mal de ne pas vivre avec eux. On dit ça parce que c'est très difficile de ne pas trouver des défauts chez quelqu'un. Et on dit, hein, l'entourage du Karmapa, bah, faut pas les envier. Parce qu'à force de côtoyer, on finit par trouver des défauts et du coup, ça crée des problèmes au niveau des connexions karmiques. Ça peut même poser beaucoup de problèmes. Donc voilà. On le voit de temps en temps dans un cadre favorable. Bah, c'est déjà très précieux, quoi. Ah, le samsara, hein, c'est ce qui est. Il y a un maître, hein, qui disait, le samsara, c'est de voir des défauts chez les autres. C'est une des caractéristiques, comme quoi, c'est une des caractéristiques du samsara. On voit des problèmes chez les autres. On voit des défauts chez les autres, systématiquement. Voilà, est-ce que vous avez envie de répondre là-dessus?
Donc, tu me disais, et je trouve ça, moi en tout cas, ça me parle quand tu me disais ben les Bouddhas, les maîtres du passé, mais en fait, ils ont déjà. Plein de choses, quoi. Ils ont traversé plein d'épreuves. Et c'est vrai que quand on pense au Bouddha, bah lui il s'est éveillé tout seul, hein. Il n'y avait pas de manuel, quoi. Bon, il a eu des maîtres. Mais du coup, tu nous disais au début, en ce moment, maintenant, de nos jours, c'est difficile de trouver des maîtres vraiment éveillés. Et du coup, tu vois, avec tout ce qu'ils nous ont transmis, pourquoi c'est pas plus facile? Pourquoi il n'y a pas plus de maîtres éveillés maintenant?
À cause de nos perceptions. C'est-à-dire, c'est là que je fais le lien du coup avec la façon de voir tantrique. C'est que dans la façon de voir tantrique, le Bouddha n'est pas quelqu'un qui est arrivé sur Terre, qui n'était pas éveillé, qui va faire un chemin et qui devient éveillé. Dans la manière tantrique, le Bouddha est déjà éveillé quand il arrive, quand il se manifeste. En tant que Bouddha sur Terre, en vérité, on voit dans les tantras qu'il était Bouddha Antushita, le royaume des dieux. Il était Bouddha et il va ensuite désigner Maitreya comme étant prenant sa place dans le monde de Tushita pour se manifester en tant que Bouddha chez les humains. Et du point de vue des humains, eh ben, il va manifester le chemin. Il va manifester quelqu'un qui fait un chemin, qui ensuite quitte son palais, voilà l'histoire qu'on connaît, pour devenir Bouddha. Mais au bout du compte, il est déjà Bouddha. Il n'a pas, voilà, c'est pas, il n'a pas réalisé l'éveil sur Terre. Donc on est dans une compréhension du Dharma qui est différente. Enfin, une approche du Dharma qui est différente dans le Tantra. Donc dans le Tantra, les Bouddhas et les Bodhisattvas sont parmi nous, en nombre innombrable. On dit autant, il y a autant de Bouddhas qu'il y a d'atomes dans l'univers. Mais de par notre perception distordue, on n'est pas à même de les reconnaître. Et c'est pour ça qu'on n'est pas à même de... Même on aurait un parfait Bouddha en face de nous, eh bien on ne le verrait pas. Du point de vue... on dit hein, un être ordinaire, et le problème c'est que, voilà, on utilise les êtres éveillés, on parle de l'éveil, mais finalement c'est un terme qui est assez réducteur, éveil. On ne sait pas trop à quoi ça renvoie. Mais si on arrive à... Enfin, si on étudie vraiment les enseignements du grand véhicule, notamment, et puis aussi du tantra, ce qu'on va voir, on va être amené à au moins à concevoir, c'est que on est incapable, à notre niveau, d'envisager, de concevoir les qualités illimitées de l'éveil. On peut pas. On peut pas le concevoir. C'est inconcevable. On ne peut pas l'envisager. On n'a pas la réalisation qui nous permet d'envisager qu'un être éveillé, il a des moyens qui sont absolument illimités pour guider les êtres vers la libération. Mais si, de par notre pratique, de par notre étude, de par notre chemin, on acquiert plus de compréhension du Dharma, plus de confiance, quand on va lire ses enseignements, parce que c'est marqué, hein. Un être ordinaire ne peut pas concevoir les qualités illimitées des Bouddhas, ils ont tous les moyens, on va pouvoir s'ouvrir à cette dimension, et peut-être envisager que je ne peux pas le concevoir, mais si j'arrive à ne pas le concevoir, ben j'envisage qu'ils sont quand même là, et donc je peux m'en remettre à eux, je peux me laisser inspirer par ça, guider en me disant, ce qui m'arrive, c'est pas insurmontable, loin de là, les Bouddhas ont vachement mâché le boulot pour nous. Pas de problème, ils sont là, ils nous aident. Ce qui m'est donné de vivre là, si ça m'est donné de vivre, c'est que je suis capable de trouver les ressources pour non seulement le traverser, mais en plus en tirer un enseignement. Ça va plus loin, quoi. C'est là parce que c'est juste. J'ai confiance dans les instructions, j'ai confiance en ma nature de Bouddha, je vais en tirer peut-être quelque chose de très puissant. Ça peut même être vraiment... L'événement qui va... après coup, on va se dire, mais ça a été super dur, mais cet événement, cette situation, m'a apporté une compréhension toute nouvelle du Dharma. On voit la chose complètement différemment. Ça peut vraiment arriver dans des situations... comment dire, là je parle peut-être de situations difficiles, mais quand je dis situation difficile, voilà, de toute façon, dans notre journée, on a toujours des moments difficiles, hein. Clairement, ou vraiment, sur le moment, c'est... Puis après coup, on regarde, oui, bon, bah voilà, c'est la vie de tous les jours, quoi. Mais cette situation où on sent que, vraiment, ras-le-bol, voilà, cette personne, cette situation, je peux plus l'encadrer, j'ai envie que ça s'arrête, etc. Et puis parfois, il suffit d'un switch, où on se dit, non, en fait, qu'est-ce que j'essaye de me... comment dire, de me débarrasser de ça, en espérant être ailleurs, en espérant voilà, esquiver le truc, mettre des stratégies de côté, et bien parfois il peut y avoir l'ouverture, non c'est ça, il faut que je sois là, là il faut que je sois là. Plus chercher à être ailleurs, c'est je fais face à la situation, si ça dure, ça durera ce truc, mais je fais face à, voilà, je suis là, j'observe ce qui se passe dans mon esprit, j'accepte ce qui se passe dans mon esprit, et j'accepte aussi de ne pas me laisser submerger par l'idée de « faut absolument que ça s'arrête » ou « faut absolument que je vois plus cette personne ». Vous voyez, samsara, on ne fait pas face à la situation parce qu'on est trop préoccupé de comment faire pour que cette personne, je la vois plus, quoi, que j'appuie sur le bouton « stop ». Arrête de parler, tais-toi, je veux pas t'entendre, enfin, vous voyez. Mais ça ne marche pas du tout, ça fait qu'empirer la situation. Souvent. Je parle d'une petite situation, hein, quelque chose qu'on a tous vécu, voilà, une personne qui nous tape sur le système tout simplement, quoi. Puis on est fatigué, puis on en a marre, on trouve toujours quelque chose à redire à son comportement parce que ça nous met mal à l'aise, parce qu'on a envie de rentrer chez nous tout simplement, des trucs comme ça, quoi. Et puis à un moment donné, en fait, c'est cette personne, par l'inconfort qu'elle nous renvoie, qui va nous permettre de nous rappeler au Dharma. Non, le Dharma, c'est là. si elle est là, bah, en fait, cette personne, c'est pour nous dire, qu'est-ce que, voilà, regarde ton fonctionnement samsarique, quoi. Qu'est-ce que t'espères te libérer voilà, non. On ira ailleurs, mais ailleurs, il y aura un autre problème. Ça peut même, je parle de ça aussi, je prends des petits exemples, mais à vous de, comment dire, c'est pas parce que, on est tous au courant, hein, qu'il y a ce genre de situation, on gère, et puis il y a les gros problèmes, mais finalement ça revient au même. C'est-à-dire ça dépend de notre entraînement. Ce qui est un gros problème pour certains peut être un petit problème pour un autre, et puis pour un autre ça peut être un petit problème. Pour nous ça représente quelque chose de gros, mais ça reste quand même très conditionné par... Ce que je veux dire, c'est que je ne cherche pas à être condescendant en prenant des petits exemples. Je pourrais en prendre des gros exemples, mais c'est... Voilà, on est tous au parfum, quoi. Mais n'empêche que ce malaise, il se réveille dans des petites situations. Il se réveille quand même dans des petites situations. Nous, par exemple, au centre, quand on organise des stages, il y a un temps qu'on appelle le LECOR. Le LECOR, c'est des tâches. Des tâches. Et puis, bah, même dans ces tâches-là, où on pourrait se dire, bah oui, on intègre la pratique dans l'action, on intègre la pratique dans les activités quotidiennes, la méditation dans les activités quotidiennes. Bah, par exemple, même faire la vaisselle, voilà, à la fin du repas, quand il y a 20 personnes, la vaisselle, ça reste quand même un gros morceau. Bon, évidemment, on va pas parler d'un problème de la vie de tous les jours, mais on peut se surprendre à un moment donné, bon allez, j'en ai marre, vivement, que je vais torcher ça, quoi, rapidement, pour que ensuite, bah, je me sente, je puisse passer à autre chose. Voilà, donc, allez, la vaisselle, puis je passerai à autre chose. Mais là, il y a déjà le samsara. Dans le passer à autre chose, mais qu'est-ce qu'on imagine? Que dans le autre chose, il n'y aura pas de problème. Vous voyez, le fonctionnement samsari, c'est vivement que je passe à autre chose, et puis je serai tranquille. Mais quand on sera à l'instant d'après, il y a un autre problème qui va se pointer. Alors qu'on sait très bien que la vaisselle, c'est pas le problème. Enfin, au fond de nous, si on regarde profondément notre esprit, comment il réagit, on est tout à fait à même de se libérer de situation et de nous ramener dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'on essaye de fuir? Non, c'est la vaisselle, et voilà, c'est ce qu'il y a à faire. La vaisselle. C'est pas marrant? Bah oui, c'est pas marrant. Mais c'est pas marrant parce qu'on se conditionne à ce que ça soit pas... ce soit pénible. On se conditionne à ce que ce soit pénible en espérant que ça sera mieux après. Vous voyez, si déjà on arrive à se libérer de ça, l'esprit va trouver un apaisement. C'est ce qu'il y a à faire.
Est-ce que pendant cette laborieuse vaisselle, si on se met à penser au bien d'un être ou des êtres, ou est-ce que c'est mal faire la vaisselle? Est-ce qu'on perd cette attention sur l'instant présent de la vaisselle, ou est-ce que c'est une action dharmique de combiner, voilà, l'action vaisselle avec les souhaits, par exemple?
Bah ouais, très bien, très bien. Ouais,
parfait. Non, tu peux faire deux fois la vaisselle.
Viens faire la vaisselle chez nous. non, pas de problème. D'ailleurs, dans le tantra, on fait beaucoup ça, dans le Vajrayana. Dans le Vajrayana, bon là, je fais une parenthèse, hein, puisque après je vais m'arrêter là. Mais dans le Vajrayana, ce qui est intéressant, c'est que bah, voilà, on a reçu les instructions pour pratiquer Chenrezig. Je parle de Chenrezig parce qu'on la connaît tous, cette pratique. Dans Chenrezig, qu'est-ce qu'on se fait? On n'est plus monsieur ou madame Attel, on est Chenrezig. Les autres, c'est Chenrezig. L'environnement, c'est plus Meudon, Chöling, etc. C'est Dewachen. Donc, on joue avec les perceptions. Pourquoi on peut jouer avec les perceptions? Parce que déjà, on a reconnu que tout est vacuité. C'est-à-dire que notre façon de percevoir les choses, le monde qu'on projette, il est lié à notre perception. Il n'est pas tel qu'on le perçoit. On commence... Il faut avoir une compréhension de ça pour pratiquer le Vajrayana. Mais au fond, c'est pas si compliqué. Parce que, par exemple, les enfants, ils font très bien le Vajrayana. Pas de problème. On joue au cow-boy et aux indiens. Ok, moi je suis le cow-boy, toi t'es l'indien. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on sait qu'on est libre de l'identification. Si j'ai envie de me prendre pour un cow-boy, rien ne m'empêche de me prendre pour un cow-boy. Parce que je ne suis pas un cow-boy, mais aussi parce que je ne suis pas monsieur ou madame Intel. Voilà, on joue avec ça. Si je décide que ma main, c'est un flingue, ok, eh ben, voilà, on va pouvoir jouer avec ça. Si, vous voyez, le Vajrayana, ça joue sur quelque chose de très simple et en même temps de très profond. Je ne pourrais pas dire que ma main, c'est un flingue. Même un enfant ne pourrait pas si ma main était intrinsèquement une main. Mais je peux le faire parce que la main, c'est juste une convention. On l'appelle main, c'est une désignation qui désigne une fonction. Mais je peux décider, voilà, si on se met d'accord, maintenant ma main, on considère que c'est un flingue, ok ? Et puis quand je fais pan, eh ben, toi t'es mort. Voilà. Eh ben, les enfants, ils sont très à l'aise avec ça. Je suis l'indien, etc. Puis à un moment donné, on change de rôle. Ok, maintenant c'est plus toi l'indien, c'est moi l'indien, et puis toi t'es le shérif. Ça marche. Voilà. Ben, le Vajrayana, ça fonctionne là-dessus. Les choses sont vices d'existence propre, eh ben on va travailler avec ça. On va travailler avec cette capacité de l'esprit de transformer nos perceptions. On joue avec nos perceptions. C'est pas, comment dire, on joue nos perceptions, c'est pas pour remplacer une réalité par une autre. Les deux sont de toute façon vides de réalité ultime. Mais par contre, il y en a une qui nous mène vers l'éveil. Chenrezig. C'est on remplace une illusion par une autre illusion, sauf que l'illusion de Chenrezig, elle est propice à l'éveil. Ce qu'on appelle un moyen habile. Et si on commence à être à l'aise avec ça, eh ben, quelqu'un qui pratique le Vajrayana, quand il passe le balai, eh ben, au lieu de passer le balai, eh ben, il se dit, je purifie, je dis n'importe quoi, hein, je purifie toutes les impuretés du monde. Voilà, je me prends pour un bodhisattva, et puis chaque coup de balai, ben, j'imagine que je soulage les impuretés, le karma des êtres. Quand je fais la vaisselle, pareil, je soulage le karma souillé, j'enlève toutes les impuretés. Un pratiquant du Vajrayana, il n'y a pas besoin d'être un intello. Hein. Il y en a qui font ça très bien, et il n'y a pas besoin d'avoir une éducation, un truc. Si on comprend comment ça marche, et qu'on est dans le rappel constamment, et ben, tout ce qu'on fait, c'est tourner vers le bien des êtres. Et même manger, un pratiquant du Vajrayana, quand il mange, eh bien, il se visualise Chenrezig. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je soulage les six mondes d'existence. Il utilise le sentiment de satiété en imaginant que ce sentiment de satiété va remplir, comble tous les êtres. Et les soulage de la famine, les soulage de la soif. On est Chenrezig et on a ce pouvoir-là. C'est juste le pouvoir de l'esprit. Et on peut imaginer que quelqu'un qui fait ça tout le temps, à quel point ça transforme totalement notre esprit. C'est un entraînement très, très profond, quoi. Et moi, j'en connais, hein, qui font ça constamment. Et ils passent totalement inaperçus, ils passent le balai. Moi, d'extérieur, on voit des gens qui passent l'aspirateur. Mais non, en fait, c'est Chenrezig.
Ouais. Là, tu parles, en fait, de la place centrale aussi de la compassion. Et dans la dévotion que tu évoquais tout à l'heure, tu parlais des maîtres. Quand tu parlais par exemple de Kampopa et Milarepa, est-ce qu'il est plus facile de ressentir quand même cette dévotion grâce à un maître quand on ressent en fait la compassion qu'il a pour son disciple? C'est-à-dire qu'on peut être très touché par sa compassion et ressentir quelque chose de vraiment très fort. Et du coup, ça peut motiver cette dévotion.
Bien sûr.
Donc c'est peut-être plus facile d'entretenir cette dévotion avec une relation comme ça directe quand même de maître où on est touché par sa compassion.
Ça dépend des personnes, tu vois. Ça dépend des personnes, mais on est touché par... on reconnaît, par exemple, dans l'attitude d'un maître de la compassion vis-à-vis de nous, et vraiment qu'on se sent touché par ça, effectivement, ça va faire naître de la dévotion. Ça, ouais. Ouais.
Parce que c'est pas facile quand on est, c'est vrai, souvent seul, sans la sangha, de se remotiver chaque jour. C'est pas toujours simple. Est-ce qu'on peut se raccrocher un petit peu à cette idée, enfin à la compassion, mais pas à juste l'idée de compassion, à celle du maître, voilà, pour être quotidiennement motivé pour la pratique. Pas que du coussin, bien sûr, hein, je parle de la bodhicitta.
Comment dire, c'est excellent, effectivement, c'est excellent. Si on a une relation avec quelqu'un qu'on considère comme un maître et qu'on a de la dévotion pour lui, c'est extrêmement précieux. Mais pour que ça nous accompagne dans notre vie, étant donné que peu d'entre nous vivent en contact avec notre maître, il faut aller plus loin, c'est-à-dire pas seulement le maître extérieur, mais de voir le maître à travers toutes les situations de la vie. Parce que quand on arrive à voir ça, et on n'est plus jamais coupé du dharma. C'est-à-dire que toutes les manifestations qu'on voit dans le monde, et ben du coup on est en contact avec le Bouddha, le dharma, la sangha. Tout ce qui nous arrive en fait devient le lama racine qui réunit les trois joyaux. Et donc ça, c'est ça compris. Hein. C'est voilà, accordez-moi votre grâce qu'une dévotion sincère naisse en moi. Quand on en est là, c'est très puissant parce que du coup on n'est jamais coupé. La maracine. On se sent toujours toujours guidé. Toujours guidé. C'est ça l'idée. C'est d'envisager que on en arrive à un point où quel que soit ce qui nous arrive, on a cette confiance absolue que c'est de la maracine. On est guidé. Donc même si c'est noir, voilà ce que je veux dire, un peu on voit pas le bout du tunnel, s'il y a à un moment donné ce rappel, en fait tout va bien. Rien que cette idée-là, même si on est encore, voilà, ça fait une énorme différence avec quelqu'un qui se sent désespéré au bout du tunnel. S'il y a cette lueur d'espoir, tout va bien. C'est la confiance que c'est de la lama racine.
Orgen, est-ce que c'est pas un peu plus difficile de ressentir cette confiance absolue dans les trois joyaux? Quand précisément on n'est pas dans une situation difficile, quand tout va bien au contraire. Parce qu'alors là, on n'a pas de point de repère en fin de compte. On est dans un espèce de samsara qui n'en est pas un parce que c'est très agréable, il n'y a pas de difficulté. Et on n'est pas à ce moment-là dans la pensée du maître et du.
Ouais.
Et du dharma.
Hein. Ah ouais, c'est vrai que
et
c'est.
Et donc, il y a tout le risque que tous les petits actes de la journée
tout à fait.
Soient pas du tout pénétrés de.
Tout à fait, ouais, ouais.
De
tout
dévotion.
À fait. Ouais.
Tout à fait.
Ouais. Déjà, rien que le fait d'avoir cette prise de conscience, c'est excellent. Parce que si on a ce souci-là, en se disant, bah oui, mais c'est pas facile quand tout va bien. Bah c'est quelque part, on a quand même cette prise de conscience que. Méfiance. Méfiance. Mais ce souci nous protège. Enfin, tu vois, ce souci, quand on l'a. Ouais, mais mon petit doigt me dit que. Pas facile de pratiquer le dharma. Bah c'est que. On sent que. On est quand même dans. Il y a quand même une prise de conscience qu'il y a l'impermanence, il y a tout ça. Faut que je me méfie. Enfin, voilà. Faut que je reste alerte par rapport à ça. Mais oui, c'est plus dur. Bah, c'est le problème du monde des dieux. Pourquoi on parle du monde des dieux? Nous, on n'en fait pas l'expérience en tant qu'humain du monde des dieux. Mais il est quand même enseigné et on nous dit c'est quoi le problème du monde des dieux. C'est qu'il y a tellement tout qui va bien que pourquoi je pratiquerais le dharma? Pourquoi j'irais chercher midi à 14h? On n'a pas les conditions pour pratiquer le dharma dans le monde des dieux. C'est une condition qui est privilégiée du monde humain, entre guillemets, où il y a quelque part, je parle de la précieuse existence humaine, hein, ça ne concerne pas tous les humains, mais dans la précieuse existence humaine, il y a suffisamment de répit pour pratiquer le dharma, et suffisamment d'inconfort pour pratiquer le dharma. Vous voyez, on sait que quand il y a des choses bien, ça ne va pas durer, on sait que quand il y a des choses pas bien, ça ne va pas durer, on a ce conditionnement. Dans le monde de Dieu, on n'a pas ça. C'est un peu comme un... On passe d'une jouissance à notre jouissance, notre esprit est accaparé par ça. Il n'y a pas lieu de se dire, il y a un truc qui cloche. Et il y a peu de place pour se dire, ça ne va pas durer. Et en plus, c'est vraiment exacerbé dans le monde des dieux, c'est que c'est des existences qui sont très longues. Autant nous, on peut voir le bout, quoi. On voit que, bah, mine de rien, au fur et à mesure des années, le corps est vieilli, et puis, les autres aussi partent, les autres ont des problèmes, vous voyez, on a même accès à ça, pas chez nous, mais on le voit chez les autres, on envisage que chez nous, ça ne va pas durer éternellement, quoi. Dans le monde de Dieu, il n'y a même pas ça. Et jouissance non-stop, on ne voit pas le bout du mot. Et quand on le voit, il est trop tard. C'est aussi la seule souffrance du monde des dieux. C'est à la fin d'une existence qu'on dit, mais...
Idyllique.
Totalement, oui, idyllique et très longue. Très très longue. À la fin de cette existence interminable des jouissances, et bah, tout d'un coup, on se rend compte que ça va être la fin. Et par la prescience divine, on voit où est-ce qu'on va retomber. On voit qu'on a cramé tout le karma positif et qu'il est trop tard. Et c'est une souffrance qui est abominable. Parce qu'on peut pas revenir en arrière. On tombe de haut. Bah oui, forcément, on est tout en haut du samsara. On va tomber très très bas parce que on n'a pas mis à profit ce karma positif. Et donc on l'a cramé. Et du coup, ce qu'on s'apprête à vivre. Ouais.
Donc c'est une mauvaise. Ça,
c'est une mauvaise réincarnation. Il ne faut pas le souhaiter.
Daniel était dans le monde des dieux et tu ne sais pas.
La meilleure renaissance dans le samsara qu'il faut souhaiter, c'est la précieuse existence humaine. Le monde des dieux, il ne faut pas le souhaiter. Il ne faut pas le souhaiter. Et nous, dans le monde humain, on cultive le fait de créer du karma positif. Mais ce n'est pas pour simplement jouir du karma positif. C'est pour utiliser ce karma positif pour nous libérer, vous voyez ? Parce que karma positif pour karma positif, c'est le monde des dieux. D'ailleurs, oui, on jouit, mais à un moment donné, on l'utilise pas, on le met pas à profit. Et même si c'est 1000 ans d'existence de jouissance, il y a Shantideva qui dit « Celui qui rêve d'un bonheur de 1000 ans s'éveille ». Celui qui ne rêve d'un bonheur qu'un instant s'éveille aussi. Quand tous deux sont éveillés, leur bonheur disparaît. Pas au sens éveil, mais c'est-à-dire on se réveille d'un rêve très idyllique qui a duré 1000 ans, ou on se réveille d'un rêve qui a duré un instant. Au bout du compte, on en est toujours au même point. Si on n'a pas utilisé ce karma positif vers la libération.
Tous les humains n'ont pas la précieuse existence humaine.
Oui. Parce que quand on parle de la précieuse existence humaine, c'est on réunit des conditions qui font que on est capable. Alors il y a pas mal de conditions. C'est déjà on a les facultés sensorielles, les facultés cérébrales de comprendre le dharma. Oui. Mais pour comprendre le dharma, il faut qu'il y ait l'enseignement qui soit présent. Et puis pour que l'enseignement soit présent, il faut vivre dans un pays où il est présent, dans une ère où le Bouddha a enseigné. Voilà, il y a plein de trucs qui font que, d'une certaine manière, on a toutes les conditions, au moins à minima, qui nous permettent de pratiquer le dharma, de le comprendre, de le pratiquer, etc. Mais il y a des humains qui n'ont pas ces conditions-là. C'est-à-dire, ça peut être le fait de ne pas pouvoir comprendre le dharma, ou de vivre dans un pays où on ne peut pas pratiquer sa religion, ou de vivre dans un pays où il n'y a pas de place pour ça, ou de vivre dans un contexte où il y a le dharma, mais on ne s'intéresse pas du tout à ça,
ou d'être atteint de démence.
Voilà, c'est pas la précieuse existence humaine, c'est une petite échelle de la population humaine, quoi. C'est-à-dire, avoir la précieuse existence humaine, c'est extrêmement rare. Même du point de vue des humains. C'est privilégié. Il suffit qu'il manque une condition et puis on peut pas pratiquer le dharma. Ou on peut pas le comprendre. Ou on aurait envie, mais il n'y a pas les conditions.
Je croyais qu'on était tous des bodhisattvas.
D'accord. Non, on est un bodhisattva que quand on... ce qui fait le bodhisattva, c'est celui qui aspire à réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres. C'est ça qui fait le bodhisattva. C'est cette motivation qui fait le bodhisattva. Alors, bodhisattva en herbe ou bodhisattva confirmé, mais ce qui réunit les bodhisattvas, c'est celui qui c'est ce souhait, cette intention, je veux réaliser l'éveil pour libérer tous les êtres.
Alors, il faut déjà être dans la précieuse existence humaine.
Ah bah oui, c'est, alors, bah ouais, ouais.
Oui, mais la nature de Bouddha est chez tout le monde, donc y compris...
ah oui, la nature, mais alors il ne faut pas confondre ça avec la nature de Bouddha. D'accord, voilà, c'est ça. Okay. Bodhisattva, c'est une intention, c'est une motivation. La nature de Bouddha, elle est présente chez tous les êtres, c'est la nature essentielle de tous les êtres sans exception. Mais après, on va parler d'un potentiel qu'on peut mettre à profit dans cette vie, et puis il y a des potentiels, on a le potentiel, mais on n'a pas les conditions. Par exemple, un animal, on considère que, même si la nature de Bouddha, dans la condition d'animal, il ne peut pas réaliser l'éveil.
Et donc, récapitulatif, la précieuse existence humaine, c'est les conditions.
Précieuse existence humaine, c'est les conditions, ouais. Un conditionnement particulier. Donc, une réunion de liberté et de conditions.
Un peu comme ouais. La chance, un peu.
Alors. Ah non, c'est pas la chance, c'est le karma.
Oui. Pour ça, je disais un peu.
Ah bah ouais, c'est... quelle chance, mais en même temps, oui, c'est grâce à nous quand même.
Et c'est précieux parce que ces conditions, elles peuvent disparaître très rapidement.
Ouais. Mmh. Ouais. Notamment quand tout va bien.
Notamment quand tout va bien. Mais voilà, quand tout va bien, bah, déjà de se dire... mettre à profit, considérer que tout va bien, c'est une chance pour mettre à profit, par exemple, la pratique du dharma. Là, du coup, on tire le plein bénéfice de nos conditions favorables. C'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Je vais bien. Eh ben, qu'est-ce que je peux faire pour utiliser ces conditions favorables pour pratiquer le dharma? Si on ne fait que jouir, etc., ben, si finalement cette condition favorable n'est pas une condition favorable. Vous voyez, ce n'est pas, tant c'est pas notre condition qui fait que c'est favorable ou pas favorable. Du point de vue du dharma, c'est cette condition, est-ce qu'elle me permet de pratiquer le dharma ou pas? Si une condition défavorable nous permet de pratiquer le dharma, ben, c'est karma positif. Enfin, c'est même plus loin, quoi. C'est favorable. Si une condition favorable nous permet de pratiquer le dharma, c'est favorable. Mais si une condition favorable ne nous permet pas de pratiquer le dharma, ça peut être un problème. Le fait d'être riche, c'est pas considéré comme, point de vue dharmique, une condition favorable. Ça l'est si on l'utilise pour pratiquer le dharma. Et on utilise notre richesse dans le but de libérer tous les êtres ou dans le but de pratiquer, voilà, de faire quelque chose pour nous-mêmes, pour les autres, etc. Si c'est juste cramer le pape, bah, c'est pas favorable.
En tout cas, merci pour l'explication du Vajrayana. Je n'avais jamais rien entendu d'aussi simple.
Ah bah, tant mieux.
Bravo.
Voilà.
Sur Instagram.
Oui, c'est bien. Moi, je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Cette explication m'a beaucoup aidé parce que ça ramène le Vajrayana à quelque chose d'abordable, de concret. C'est un jeu, le Vajrayana. On joue. Si on sait jouer, si on retrouve justement un truc, eh ben on va beaucoup plus, c'est beaucoup plus accessible. Parce que ça, on sait tous le faire. Il suffit juste de retrouver un petit peu notre état d'esprit enfantin, parce que les enfants, ils sont à l'aise avec ça. Hein. Et après, on cristallise les choses un petit peu. Mais voilà, c'est une histoire de jeu, quoi. On joue avec l'esprit. On fait la dédicace ? Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.